Robotic Connection, Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère. Et bonjour, c'est Wendy Anne Carpentier et vous écoutez Radio FM Plus Montpellier. On se retrouve aujourd'hui pour une émission branchée Robots humanoïdes. Nous avons l'honneur d'écouter Abderrahmane Kedar, directeur de recherche au CNRS et responsable IDH, Interactive Digital Humans, travaillant dans le laboratoire du LIRM à Montpellier. Laboratoire d'informatique, de la robotique et de la microélectronique de Montpellier. Bonjour Monsieur Kedar.
Bonjour Andy.
C'est quoi l'IRM exactement?
C'est un laboratoire de recherche qui regroupe des chercheurs aussi bien du CNRS que de l'Université de Montpellier et d'autres institutions qui sont un peu rattachées. Donc c'est un lieu où on fait de la recherche et du développement autour de thèmes qui touchent à l'informatique, donc l'intelligence artificielle, la microélectronique et la robotique.
Quelles sont les missions de l'IRM?
Les missions du LIRM sont un peu simples, elles sont définies comme tous les laboratoires de recherche en France par le CNRS et les institutions de tutelle. Donc, en l'occurrence, pour le LIRM, c'est l'Université de Montpellier qui nous donne. Bon, il y a quand même une certaine liberté pour les chercheurs à explorer des domaines divers et variés. Et les missions, c'est de générer de la connaissance. Essentiellement, après, si on peut aller à l'innovation, c'est-à-dire à accompagner les connaissances qui sont découvertes, donc qui sont générées par ces recherches, vers des produits ou vers des services qui servent un peu la société, l'industrie française, eh bien, on les accompagne aussi. Ça fait partie de notre mission.
Vous qui êtes directeur de recherche au CNRS de Montpellier et responsable aussi à l'IDH Interactive Digital Humans, c'est quoi concrètement vos missions ?
Eh bien, j'en ai plusieurs. D'abord, comme chercheur, je fais de la recherche, donc je m'intéresse à résoudre des problèmes qui sont posés soit de manière fondamentale, soit de manière appliquée. En robotique, on a quand même beaucoup plus des choses palpables qu'on touche, mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus difficiles. Et, par exemple, comment est-ce qu'on programme un robot à faire des tâches en autonome? Comment est-ce qu'un robot peut savoir ou décider, peut comprendre son environnement? Peut, dans le cas où c'est utilisé dans des applications d'aide aux personnes âgées, peut comprendre quels sont les besoins des personnes. Donc, au fait, il y a dans la robotique, parce que je suis roboticien, donc beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus, qu'on essaie de comprendre. Pour beaucoup d'entre eux, maintenant, ça nous permet de comprendre nous-mêmes aussi, parce que quand on fait de l'humanoïde, c'est des robots anthropomorphes, c'est des machines qui nous ressemblent, et donc dont on essaye de doter de capacités similaires à ce que l'on a en termes de capacité physique à réaliser des tâches, et aussi en termes de capacité à raisonner. Après, j'accompagne des jeunes chercheurs, donc je forme. Ça fait partie aussi de la mission. Et puis aussi, je suis dans les instances européennes, internationales, nationales, évidemment, sur les directions de recherche à prendre pour que l'on soit à la pointe par rapport à la compétition internationale, qui est extrêmement rude.
Vous avez aussi un laboratoire au Japon, je crois.
Oui, ça enchaîne très bien. Donc j'avais dit que la compétition internationale dans les domaines de recherche de pointe est assez dure, rude. Et donc assez souvent, on est contraint ou pour des raisons de partenariat gagnant-gagnant à travailler avec des institutions étrangères. Alors le CNRS sait très très bien le faire parce que c'est sa façon de faire. Donc le CNRS, comme vous le savez, c'est l'un des acteurs majeurs de la recherche française en Europe. Et donc c'est un organisme qui comporte plusieurs instituts qui touche tous les domaines de recherche pardon. Et donc du coup avec le CNRS on a des systèmes qui permettent de faire des laboratoires communs comme il le fait en France avec les universités et les autres institutions industrielles. Bien, il le fait aussi avec des institutions et des organismes étrangers. Donc le CNRS a peut créer des laboratoires mixtes à l'international où des chercheurs français sont envoyés dans ces labos pour accomplir des missions de recherche conjointes avec le pays avec lequel on a décidé de travailler.
Et on y fait quoi là-bas, dans ce laboratoire au Japon ?
Pareil, donc on fait aussi de la robotique. Il y a certaines choses, certains secteurs de la robotique pour lesquels les Japonais sont très très forts. Il y en a certains pour lesquels nous on est forts. Et bien l'idée c'est qu'on assemble nos efforts, et puis je ne trouve pas le mot exact, mais
on combine
nos efforts pour avancer dans le domaine de la connaissance.
Donc, vous travaillez dans la recherche robotique humanoïde, dans l'interaction haptique, je crois,
oui.
Les simulations interactives et la réalité virtuelle.
Oui.
L'interaction homme-robot, je crois,
oui.
Robot-environnement, commande par la pensée et les signaux physiologiques,
oui.
Human-virtual et la co-manipulation et la collaboration homme-robot. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu?
Alors, pour faire simple, tous ces domaines que vous avez cités, qui sont très techniques, hein, donc bravo pour les avoir déjà bien prononcés, parce que c'est pas facile, et ils sont en fait, ils partagent les mêmes fondamentaux. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui a aspect au toucher, à la sensation du toucher, dont les robots ne sont pas pour l'instant dotés avec la même, on va dire, avec le même perfectionnement qu'à une personne humaine. Donc tout ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on, quand on fait des mouvements, quand on manipule des objets, comment est-ce qu'on décide des points, d'accord, d'appui au mouvement, des points qui vont nous servir, des contacts qui vont nous servir à manipuler des objets, à nous manipuler nous-mêmes dans un environnement. Comment est-ce que l'homme le fait et comment est-ce qu'on pourrait le reproduire sur le robot. Donc ça, c'est une partie. Après, puisqu'il y a aussi, on parle du contact, il y a maintenant beaucoup dans l'évolution de la robotique, ce qu'on appelle un peu la cobotique, c'est-à-dire les robots qui collaborent avec des personnes. On n'est plus dans des situations, même en industrie, où les robots travaillent en aparté, d'accord, ou dans des usines de production où vous avez des robots où il n'y a aucun humain pour des raisons de sécurité. Là, on essaie plutôt de faire des robots comme une sorte de machine extrêmement sophistiquée ou un outil, si vous voulez, qui permet de travailler à côté de l'homme, que l'homme peut utiliser comme un outil quelconque, et aussi comme des systèmes avec qui permettent d'aider des personnes. Alors, pour aider une personne âgée, il faudra lui donner des supports, il faut l'aider avec du contact, avec du toucher, à sortir par exemple de son lit, à le faire asseoir, et donc c'est autour de tout ce qui est interaction, contact physique, que l'on appelle haptique, d'accord, que je travaille.
Et maintenant, petite pause musicale, Robot, interprété par Trip Lee. C'est parti, vous écoutez Robot sur Radio FM Plus Montpellier. I am not your robot, I am not a clone, yeah. You are not my puppeteer and I am not a drone, yeah. Got a new master and I follow him alone. Hold it through a life till I'm gone, it's on. Hey, I was born less than human. I know it sounds crazy, but I was really born a robot as a baby. No real life in me, I just played my role. No self-control, I just did what I was told. I got my first order, I was just a day old. But I didn't have a chance, cause my heart was way cold. My heart took the orders, it couldn't break the mold. Soul undermined and I couldn't take control. So I was just chilling in my robot clothes, with my robot friends and my robot flows. Living robot ways, cause that's all I know. Till I heard I could be free from my robot soul. I'm like, why you always trying to control me? You are not my boss, that's the old me. Obviously, you don't know my style. I'm not a robot now. The crazy thing is, I ain't know I was a robot. So I ain't never whole lot of plans for me to roll at. Thought I was unique, I thought that I was so hot. But I was just like them other drones, I was so lacked.
brainwashed. I was listening to lies. The freedom that I thought I had was really a mirage. Made my own choices, but it was in disguise. The only thing I really did was pick a different lie. So I was still a drone, nothing but a clone. I only do the lies cause it's all that I was shown. But I've been remade, my heart is no longer stone. When my ex wrote bats who could sing this song. Now I've been remade, and I'm no longer hollow. A real man can't change everything that I know. He gave me truth, that's a hard pill to swallow. Gave me new commands and he freed me up to follow. Why you always trying to control me? You were not my boss, that's the old me. Obviously, you don't know my style. I'm not a robot now. But I'm a puppeteer and I am not a drone. Yeah. Got a new master and I follow him alone. Hold a good life till I'm gone. It's on. Hey world, you know I see a game. And I don't need your lies, I ain't worried about a thing. Hey devil, I know you want me tamed. But you've been defeated and your power's been drained. Hey flesh, I know you bear my name. I know you let it last, but I'm steady trying to change. You might have been confused, but this is a new day. I'ma save now, I ain't gotta do what you say. And to my friends who are still on lockdown, still controlled by their passions, stop now. Cause he can free everybody from the top down. If you're freed up, say this with me right now. I'm not a robot now. I'm not a robot now. I'm not a robot now. Why you always trying to control me? You are not my boss, that's the old me. Obviously, you don't know my style. I'm not a robot now.
Vous écoutez Triply Robot sur Radio FM Plus Montpellier. Nous revoici avec Abderrahmane Kedar, directeur de recherche au CNRS et responsable IDH, Interactive Digital Humans, travaillant dans le laboratoire à l'IRM à Montpellier pour les robots humanoïdes. Alors, monsieur Kedar, pensez-vous que les robots humanoïdes et l'intelligence artificielle sont étroitement liés, ou ces deux notions différentes? Pourriez-vous apporter peut-être une définition?
Oui. Bien, bon, alors il y a beaucoup de choses qui sont un peu à la mode. L'intelligence artificielle n'a pas commencé récemment, donc c'est quand même quelque chose qui a été envisagé dès les années 60, 70, 80. Alors en robotique, ça a été tenté, on va dire, d'accord, pour faire simple, mais pour des raisons qui étaient liées plutôt aux puissances des calculs, à la disponibilité de données, justement, ça n'a pas marché dans les temps, dans les années 80, 90. Bon, maintenant, c'est revenu en force parce qu'il y a eu beaucoup de développements qui sont faits à la fois sur les aspects théoriques, sur les aspects de la disponibilité, de la récolte des données, et puis aussi sur les puissances de calcul. Donc, les ordinateurs ont beaucoup évolué. Alors, forcément, c'est l'intelligence artificielle, ça dépend comment on la comprend, en fait. Hein. Donc, c'est pas quelque chose... L'intelligence ne peut pas être, entre guillemets, l'intelligence computationnelle, si vous voulez, ou l'intelligence de l'ordinateur ne peut pas être dissociée d'un robot. Un robot sans programme ne marche pas. C'est qu'un assemblage de matériaux mécaniques, d'actionneurs électriques et puis de capteurs. Pour faire bouger un robot, il faut bouger ses actionneurs et il faut les bouger en fonction de ce que dicte la perception du robot, évidemment de ce qu'on souhaite en faire. Et donc, pour faire ces calculs, bah, il faut des algorithmes, c'est-à-dire des programmes qui vont dire, voilà, par rapport à ce qu'on souhaite faire à ce robot, il faut qu'il utilise tel capteur pour acquérir de l'information. Et en fonction de l'information dont on a, c'est cette action, d'accord, il faut tourner les actionneurs de cette façon pour faire bouger le robot. Et donc, ça ne peut pas être dissocié. D'accord. Maintenant, ce qui est important, c'est à savoir, c'est que l'intelligence artificielle, telle qu'elle est comprise maintenant, s'attaque à des problèmes qui étaient très difficiles à calculer par des robots. Enfin, c'était des questions pour lesquelles c'était extrêmement difficile de trouver des modèles. D'accord. Une d'elles, c'est si on envisage des robots qui interagissent avec des personnes, par exemple pour les aider, il est extrêmement difficile de modéliser une personne humaine avec des équations mathématiques. Et il faut forcément que le robot acquiert des données, fasse un service, regarde par rapport à ce qu'il a fait, si la personne est satisfaite, entre guillemets, d'accord ? Et puis, il se corrige, il s'adapte, d'accord ? Et il améliore sa qualité de service par rapport aux tâches, d'accord, auxquelles ils sont associés. Alors, pour percevoir une personne, pour comprendre une personne, pour anticiper sur ce que veut une personne, malheureusement, on ne connaît pas de modèle mathématique simple, d'accord, pour faire ce genre de choses.
À l'heure actuelle, on parle du robot humanoïde Jia Jia, Erika, Pepper, Nao et Sophia. Et il y en a beaucoup d'autres. Déjà, il y en a qui interviennent dans les médias, dans les films. Est-ce que vous pensez qu'en 2025, 2050, on va travailler en fait avec des robots humanoïdes au sein des entreprises, à l'international, en France ?
Alors 2025, c'est un peu tôt à mon avis, c'est 5 ans, d'ici 5 ans en gros. 2025, c'est tôt, 2050, c'est possible. C'est pas quelque chose qui est impossible. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un humanoïde, c'est qu'une machine. Hein. Donc elle nous ressemble, on l'a faite comme ça pour des raisons très très simples. C'est pas parce que on a le délire d'Hollywood. Si on veut que des robots interviennent dans des sites... D'accord, par exemple pour le démantèlement, ou dans des sites ou dans lesquels on veut apporter une assistance, d'accord, ou assigner à ces robots des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour des travailleurs humains. Eh bien, les sites en question, ces usines entre guillemets, même vos maisons, si on veut apporter de l'aide aux personnes âgées, elles ont été construites, faites à notre image, à notre façon d'être. Donc s'il y a des escaliers, c'est parce qu'on a des jambes, on n'a pas des roues. D'accord ? Et donc du coup, c'était plus pratique de penser à un robot qui a une sorte d'anthropomorphisme, c'est-à-dire une ressemblance physique à l'homme dans le sens des articulations, d'accord, pour pouvoir évoluer dans des environnements qu'on a conçus pour nous-mêmes et qu'on a conçus à notre image et à notre capacité motrice. La deuxième, c'est que si on envisage des robots pour faire de l'assistance, pour aider des personnes à vivre chez elle le plus longtemps possible, d'accord, à l'autonomie, d'accord, et au maintien au domicile, c'est comme ça qu'on les présente maintenant. C'est un fléau parce que la population âgée augmente dans tous les pays occidentaux, mais aussi maintenant dans les pays en voie de développement. Alors si on envisage ces robots-là qui nous aident chez nous, pour une personne, il est beaucoup plus simple sur le plan social. Sur le plan de la communication, de parler avec des choses sur lesquelles on sait s'incorporer, si on peut utiliser ce terme un peu barbare, mais qui veut dire que c'est quelque chose dont on sait prédire les mouvements parce qu'ils nous ressemblent. Et donc on sait si on va pouvoir demander à un robot, quand on va demander à un robot de faire quelque chose, on sait qu'il a la capacité, d'accord, de le faire parce qu'il nous ressemble. S'il ne nous ressemblait pas, s'il était quelque chose d'un peu qui ferait peut-être la tâche, mais qui serait un cul-de-chatte, au fait, ça va être très très difficile à une personne de savoir quel mouvement ce robot va faire et de prédire un peu ses mouvements. Voilà. Donc il y a un aspect qui est pratique, c'est-à-dire des systèmes robotiques qui vont évoluer dans des environnements qui ont été conçus à nos capacités ou qui répondent à nos capacités motrices. Et puis l'autre qui est l'aspect plus social qui est lié à la communication.
Et pensez-vous que ces robots-là, ils vont nous remplacer ?
Alors, ça, c'est un peu le délire de... C'est légitime de poser la question, d'accord ? Mais qu'est-ce que ça veut dire remplacer ? C'est ça la question. Ça veut dire quoi remplacer ? Est-ce qu'un robot, par exemple, qui va aider une personne chez elle, va remplacer qui ? D'accord ? Voilà, on est en manque de personnes aides-soignants. Les infirmières, elles vont venir une heure, elles ne vont pas rester avec vous H24. On n'envisage pas ça dans les domaines. On n'est pas en train de faire des systèmes qui remplacent l'homme et l'humanité. D'accord ? Ce n'est pas dans les cahiers de charges d'aucun laboratoire de recherche. Ce ne sont que, d'accord, des machines. Au Japon, par exemple, ces questions ne se posent même pas parce que on sait classer ces systèmes là où il faut les classer, des machines, d'accord, qui remplace rien du tout. Bien évidemment, quand on va intégrer un robot, c'est pour qu'il fasse une tâche, c'est pour qu'il fasse un travail. Et donc, c'est plus une question sociétale. Est-ce qu'on va mettre un peu des garde-fous pour qu'on utilise l'outil à bon escient et pas pour... Et pas pour faire n'importe quoi. Ou alors, est-ce qu'on laisse faire n'importe quoi, entre guillemets. Je pense que il y a des problèmes d'éthique, il y a des problèmes qui sont légitimes, hein, qu'il faut se poser, l'ego de l'usage qu'on peut en faire de n'importe quelle technologie d'ailleurs, que cela soit robotique ou pas.
Avez-vous peut-être des références bibliographiques à donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent connaître un peu mieux le sujet sur les robots humanoïdes et l'intelligence artificielle?
Très honnêtement, si vous avez Internet, il suffit de taper ces deux mots-clés et vous avez ce qu'il faut. Après, bien évidemment, il faut faire le tri, hein, parce que bon, on a tout et n'importe quoi. J'ai pas de livres qui ne soient pas techniques, d'accord, qui me viennent à l'esprit comme ça. Où il n'y a pas de livres qui ne soient pas techniques mais qui soient réalistes, parce que bon, il y a des livres qui ne sont pas forcément techniques mais qui sont un peu dans le délire, on va dire. Mais ce serait bien de se cultiver en regardant plutôt des sites plus liés à ce que disent les scientifiques, ce que disent Hollywood, quoi, je veux dire. Bon, il faut savoir comprendre qu'un film de science-fiction est un film de science-fiction et que la vision qu'il présente n'est pas forcément la réalité dans laquelle nous vivons et la réalité des choses. Donc, pour l'instant, on n'est pas capable de faire un robot ou un algorithme qui sache reconnaître vraiment vos intentions, vos émotions. On essaye, mais je veux dire, on n'a pas quelque chose qui fait ça. Après, très honnêtement, donc le robot, ce qui fait peur, c'est plus parce qu'il a une présence physique. En réalité, si vous regardez l'ordinateur, il a supprimé beaucoup plus d'emplois que ce que va supprimer toute autre technologie, à mon avis, qui vient. Mais on n'a pas supprimé des emplois, on n'a pas remplacé l'homme, on a juste fait évoluer l'homme sur d'autres métiers. D'accord ? Donc, ça a le progrès sur toute l'histoire de l'humanité. D'accord ? Il y a une technologie qui est venue, il y a des choses qui étaient faites, qui ne sont plus faites, mais on est passé à faire autre chose, d'accord ? D'un peu plus peut-être valorisant, parfois, assez souvent. D'accord ? Donc, l'ordinateur a remplacé pas mal de choses, hein, pas mal de métiers, pas mal de... Si vous regardez l'histoire de l'ordinateur, il y a quand même un parallèle assez important à faire avec la robotique, parce qu'ils ont suivi quasiment les mêmes chemins. Et donc, vous allez voir que personne n'a une vision de ce que c'était que les AI. Enfin, maintenant, vous avez votre ordinateur, il est dans votre poche, quasiment. D'accord ? Votre téléphone, il fait photo, il fait toute votre vie. Il y a un reportage assez, assez intéressant qui avait cette vision en fait, des choses dès les années 47. Et voilà. Donc, en résumé, je ne pense pas que les robots vont remplacer, d'accord, des hommes. Ils vont faire des tâches, d'accord, que les personnes ne veulent plus faire, et donc faire évoluer et créer d'autres métiers qui seraient plus, par exemple, dans la maintenance, faire évoluer ces systèmes à autre chose. Mais il y a des questions très philosophiques qu'il faut se poser sur quelle est la société de demain qu'on veut avec la présence de ces robots. Et ça, c'est une question extrêmement légitime et voilà, qui nécessite beaucoup plus de temps à développer que le temps qui m'est imparti.
Merci beaucoup Abderrahman Kedar, ce fut un plaisir de partager avec vous. Un grand merci de nous avoir éclairé sur le sujet des robots humanoïdes et de nous avoir consacré un peu de votre temps.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et maintenant, nous allons écouter Child in Your Arms, interprété par Ryan Stevenson et Capital Kings. C'est parti, vous écoutez Child in Your Arms sur Radio FM Plus Montpellier. In the darkness of the night, monsters running through my mind. I don't have the strength to fight. I need you. Fear is pounding in my chest. I can barely take a breath. Wishing I could find some rest. I need you. When the night is long, there is a secret place where I know I can run. Yeah.
stubborn in a way. Can't believe that you love me the same. The child of a king, always choosing faith over fame. I'm calling your name. When you call me, I dance like I'm Dame. Your arms never change. I can't describe the whole feeling of when I'm heavily chilling. It's like a magical healing. The NFL when I'm kneeling. To your throne that's appealing. A throne without all the ceilings. I'm a child with no squilling. Lord, I'm willing.
Robotic Connection, Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère. Robotic Connection, nouvelle ère.